On va continuer cette série qui a commencé déjà depuis plusieurs semaines sur marcher en nouveauté de vie. C'est vraiment ce qui est à la base de la vie chrétienne. C'est vraiment de vivre la vie que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. C'est ça qui préside et qui est à la source de notre joie, de notre épanouissement, de notre bonheur. Et je voudrais commencer ce message qui s'inscrit dans cette série en vous posant une question. Et on va voir si vous êtes au courant de l'actualité, mais dans quelques jours, le 5 décembre précisément, ce sera mercredi, il va y avoir un anniversaire. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on va fêter mercredi prochain, le 5 décembre? Est-ce que vous avez une idée? C'est le premier anniversaire, c'est un premier anniversaire. Je vous donne un petit indice. C'est ça, c'est la bonne réponse. Le 5 décembre, nous allons fêter le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Sa mort a été un événement national et je suis sûr que encore dans les médias, on va en parler la semaine prochaine, enfin cette semaine. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Parce que cet homme, il a eu une carrière exceptionnelle, extraordinaire. C'est quelqu'un qui a marqué non seulement l'histoire culturelle de notre pays, mais qui a marqué aussi la vie de beaucoup de gens. Et c'est très étonnant comment certaines personnes ont eu un attachement incroyable à la personne de Johnny Hallyday. C'est pas peu de dire, et c'est pas exagéré de dire que Johnny Hallyday a été l'objet d'un véritable culte de son vivant. Et que ça continue. Même mort, vous avez des gens qui continuent d'adorer Johnny Hallyday. Et il y a des dizaines de sosies de Johnny Hallyday. Vous en avez peut-être vu déjà certains à la télé. Et vous savez qu'il y en a certains, leur carrière, c'est d'être sosie de Johnny Hallyday. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Si vous avez un anniversaire à organiser, votre anniversaire de, je sais pas, vous avez fêté vos 40 ans, vos 50 ans, ou un anniversaire de mariage, vous pouvez inviter un sosie de Johnny Hallyday pour un quelconque événement. Et vous en avez des dizaines qui organisent des concerts, et depuis un an, depuis le décès de Johnny Hallyday, ils font salle comble. Vous avez certains de ces sosies qui ont même doublé leur auditoire, qui remplissent des salles entières. Vous avez Johnny Apache, Johnny Mirador, Johnny Rock, Johnny Success, Johnny Vegas. Et ce qui est incroyable, je disais en interview, c'est que vous avez des personnes qui viennent à ces concerts et qui demandent des autographes. Et les gens, ils signent. Johnny, et vous aviez une personne qui disait, mais voilà, j'ai un autographe et ça, je vais le garder précieusement, comme une relique, comme quelque chose là qui vient d'un dieu, on pourrait dire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, le mois dernier, il y a eu des enchères à Drouot. Au cours de ces enchères, il y a des objets qui ont appartenu à Johnny Hallyday qui ont été vendus. Alors, il y avait des costumes de scène qui coûtaient 20 000 euros, des choses comme ça, des prix astronomiques. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'au cours de ces enchères, vous avez un mégot de Johnny Hallyday qui a été vendu, 319 euros. Un mégot qui avait été jeté à la fin d'un concert, qui avait été ramassé il y a des années. Et la personne qui a acheté ça, ce n'était pas quelqu'un qui semblait très riche, hein, c'était quelqu'un de la classe, un jeune. Et au début de sa carrière, Johnny Hallyday avait un surnom. Alors, deuxième question, vous vous souvenez peut-être? L'idole des jeunes. C'était le titre d'une de ses premières chansons qui était sortie en 1962. Voilà, certains m'appellent l'idole des jeunes. Et c'est de ça que je voudrais parler avec vous, en fait, par rapport à toutes les réflexions que nous sommes en train de mener sur notre identité. Il y a une réalité, c'est que nous sommes ce que nous adorons. Nous sommes ce que nous adorons. Les sosies de Johnny Hallyday, ils sont comme ça, ils prennent l'apparence de leur idole, de la personne qu'ils adorent, parce que nous ressemblons toujours à ce que nous adorons. Et c'est une question importante à mener dans le cadre de cette série-là sur notre identité chrétienne. Et je voudrais voir d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que l'idolâtrie? Comment pourrions-nous définir l'idolâtrie? Et certainement que la réponse la plus facile à donner à cette question, c'est adorer une idole ou adorer un faux dieu. Littéralement, ce mot, qui est un mot grec, c'est adorer une image. Et dans l'Antiquité, c'est quelque chose qui était très fréquent d'adorer les images. Les dieux étaient représentés matériellement, en particulier par des statues. Et les statues, c'était l'image de ces divinités, de ces dieux. Alors, on ne faisait pas vraiment la différence entre l'image du dieu et le dieu lui-même. Donc, adorer une image, ça revenait à adorer la divinité qu'elle représentait. Et ces images, elles étaient omniprésentes. On en voyait partout. À l'époque de l'apôtre Paul, vous aviez des images dans les temples, bien entendu, mais vous en aviez aussi dans les rues, vous en aviez à chaque carrefour, vous en aviez dans l'entrée des maisons, c'était les dieux que l'on adorait qui protégeaient la maison. Donc, elles étaient omniprésentes. Et cette omniprésence était une incitation à adorer, une incitation continuelle à adorer les dieux, en se prosternant, en les embrassant, on verra ça tout à l'heure, en priant devant elles. Et vous avez un passage dans le livre des Actes des Apôtres, où on voit Paul arriver dans une ville grecque qui était remplie d'idoles, Athènes, qui était une ville qui avait longtemps rayonné, et au niveau intellectuel et au niveau religieux. Et il nous est dit en Actes 17, verset 16, « Comme Paul attendait ses collaborateurs à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Lui, c'est un juif. Lui, il adore un Dieu, le seul vrai Dieu. Et quand il voit toutes ces représentations, il y a quelque chose qui monte en lui et ça l'indispose. Et quelques versets plus loin, verset 29, il est en train d'expliquer aux Athéniens auxquels il s'adresse, auxquels il partage l'évangile, il est en train de leur dire, mais étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez, toutes ces statues, toutes ces représentations, c'est pas la vraie divinité, ce n'est pas le vrai Dieu. Chaque dieu était associé à une activité. Je vous en ai mis quelques exemples. Athènes, la ville d'Athènes, ça vient du nom d'une déesse qui s'appelait Athéna. Athéna, c'était la déesse de la science, la déesse de l'intelligence. Donc, vous avez une représentation. Voilà, si tu appuies sur le bouton. C'était voilà, celle qui présidait à la sagesse, à la connaissance. Vous aviez le Zeus, qui est le dieu de la puissance, le dieu de la force. Vous aviez Aphrodite, qui était la déesse de l'amour, la déesse de la beauté, la déesse de la sexualité. Vous aviez le dieu Hermès, qui était le dieu du profit, le dieu qui vous permettait de gagner de l'argent. C'était à la fois le dieu des voleurs et le dieu des commerçants. Bon, je ne sais pas s'il faut faire un raccourci entre les deux, il est reconnaissable à son chapeau, et puis surtout ses bottes ailées. Vous voyez, ça, tout ça, c'était des images qui incitaient à adorer, à s'adresser à ces dieux. Vous aviez Dionysos, qui était le dieu du vin, donc, et le dieu de la fête, le dieu des forces naturelles. Et il y avait une pression sociale continuelle pour adorer ces images. Et souvent, quand on passait devant ces images, on faisait un signe d'adoration. Alors, si vous étiez chrétien et que vous vous baladiez avec un non-chrétien, le non-chrétien, il allait embrasser la statue ou se prosterner devant elle. Donc, il y avait une vraie pression qui a été exercée sur les chrétiens. Et devenir chrétien, à cette époque-là, c'était parvenir à se dégager de cette pression qui était exercée par les idoles. Et quelqu'un qui acceptait Jésus, c'était un adorateur d'idoles qui devenait un adorateur du seul vrai Dieu. Et c'est ce que note Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, au début, au chapitre 1, verset 9. Donc, tous racontent comment vous, les Thessaloniciens, qui venez de cet arrière-plan avec les idoles, tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Voilà, vous avez fait le bon choix. Vous vous tournez vers le seul vrai Dieu. Et les chrétiens affirmaient leur identité d'adorateur du seul vrai Dieu. Ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël, c'était adorer un Dieu qui n'existait pas. L'idolâtrie, c'est remplacer le Dieu unique par un faux Dieu. Dieu nous a créés pour être en relation avec nous. C'est son cœur. Le plan de Dieu, c'était que Dieu se réjouisse dans l'homme et que l'homme se réjouisse en Dieu. Et le bonheur de l'être humain est fondamentalement lié à cette relation avec son Créateur. Et il y a beaucoup de gens sur la terre qui se demandent pourquoi ils sont sur la terre. Parce qu'ils sont confrontés à la tristesse, aux difficultés, à s'accomplir, à une espèce d'insatisfaction continuelle, à la souffrance. Et ça pose la question du sens de la vie. Si nous sommes le fruit du hasard, tous nos efforts pour être heureux, est-ce qu'ils ne sont pas vains? Et la réponse à cette question, c'est oui, effectivement. S'il n'y a aucune raison qui détermine notre existence, tout ce que nous faisons ici-bas, tous les efforts que nous fournissons pour pouvoir être heureux, pour nous accomplir, pour nous satisfaire, vu qu'à un moment, ça disparaîtra. Forcément, il y a quelque chose de vain dans tout ça, parce que l'homme ne peut être parfaitement satisfait que s'il retrouve sa relation avec Dieu. avec son Créateur. Jésus est mort sur la croix pour que ce qui empêche la relation avec Dieu soit détruit et que cette relation qui donne un véritable sens à notre vie puisse reprendre. Renouer avec Dieu, recontacter avec Dieu, c'est recontacter avec la source de la vie, avec celui qui nous a créés. Et quand on devient chrétien, on devient des adorateurs de ce seul vrai Dieu, du Dieu créateur. Ça, c'est un aspect essentiel de notre identité en Christ. Un chrétien, c'est un adorateur. Dieu se languit de retrouver cette relation avec nous. Dieu se languit d'avoir cette relation avec tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Tous, absolument. Et la semaine dernière, on a eu la possibilité de retrouver notre fils qui fait ses études à Strasbourg. Ça faisait 2 mois qu'on ne l'avait pas vu. C'était la première fois qu'on était séparés depuis aussi longtemps avec notre fils. Et ben, quand on l'a retrouvé, quand on a su qu'il allait prendre le train, qu'on allait le retrouver le mercredi soir, notre cœur de parent se languissait. Et quand on l'a retrouvé, on était contents, on s'est pris dans les bras, on s'est fait comme ça, ouais, à la tête. Et je crois vraiment que ça, c'est Dieu par rapport à nous. Il n'aspire qu'à une chose, c'est retrouver cette relation avec ceux qui se sont éloignés de lui. Quand on a reconnecté avec Dieu, il y a quelque chose que nous pouvons dire en tant qu'adorateur. C'est « j'aime être dans la présence de Dieu ». On pourrait dire ça, les uns et les autres. J'aime être dans la présence de Dieu. Encore une fois, on a été conduits par les chanteurs, par les musiciens, dans la louange, dans l'adoration. Et ça nous permet, ça facilite, ça nous porte à ce face-à-face avec Dieu. Et on peut dire, mais j'aime être dans la présence de Dieu. Mais Dieu dit la même chose de nous. Il dit, j'aime être dans la présence de Xavier. J'aime être dans la présence de Julienne. J'aime être dans la présence de Sébastien. C'est fou, hein, nous on dit, ouais, j'aime ta présence, mais Dieu nous dit, moi aussi j'aime ta présence. Et moi je veux ça avec toi, et moi je veux approfondir ça avec toi. Nous sommes des adorateurs. L'être humain a été créé pour adorer son Créateur. De fait, tous les êtres humains sont des adorateurs. Même s'ils ne croient pas en Dieu, ce sont des adorateurs. Si l'on n'adore pas Dieu, on adore quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Johnny Hallyday par exemple. Parce que l'être humain cherche constamment à étancher sa soif d'éternité. C'est la marque que nous sommes créés par un Dieu éternel et infini. Et en nous, il y a une soif éternelle et infinie que seul Dieu peut étancher. S'il n'est pas en relation avec Dieu, il y a en lui, dans l'être humain, un vide immense qu'il cherchera à combler de toute manière. L'être humain est fait pour adorer Dieu. S'il n'adore pas Dieu, il adore quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Alors bien sûr, l'idolâtrie ne prend pas les mêmes formes qu'à l'époque de l'apôtre Paul. Si vous vous baladez dans les rues de Mantes-la-Jolie, vous n'allez pas trouver des statues de Zeus, d'Hermès et d'Aphrodite. Mais la pression, elle continue d'exister au niveau de notre mentalité. On n'adore plus l'image de Zeus, mais on adore la puissance. On adore la force. On adore le contrôle, le pouvoir. On n'adore plus l'image d'Aphrodite, mais on adore la beauté. On adore la sexualité. On n'adore plus Hermès, mais on adore l'argent. On adore le profit. On n'adore plus Athéna, mais on adore la science. On adore l'intelligence. On adore la sagesse. On n'adore plus Dionysos, mais on adore la fête. On adore l'alcool. Souvent, le péché, on associe ça à des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est le mal. Mais le péché, c'est d'abord le désir d'être totalement autonome de Dieu, de ne pas avoir de relation avec Dieu. Et c'est parce que nous sommes détachés de Dieu que nous faisons, et qu'on ne tient pas compte de sa volonté, qu'on fait le mal. Mais le péché, c'est concentrer toute son attention et toute son énergie sur ce que l'on considère comme le but ultime de son existence, si nous n'avons pas Dieu dans notre existence. Si ce n'est pas Dieu, ce sera une idole, quelque chose qui servira d'idole. C'est pour ça que c'est important de savoir comment nous fonctionnons et d'identifier nos idoles. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie, identifier l'idolâtrie. Les images des dieux, on en a eu un aperçu tout à l'heure dans le diaporama, c'était des œuvres d'art. C'était souvent des statues qui étaient faites en bois, en marbre, en bronze, en argent, en or, en métaux précieux. Et cette richesse, elle signifiait qu'on accordait beaucoup de valeur aux dieux, parce qu'on utilisait des choses, et même si c'était du bois, on faisait en sorte que ce soit richement sculpté, décoré. Et ça veut dire, j'attache beaucoup de valeur à ces dieux que ces images représentent. Et c'était donc une pratique très courante d'embrasser les idoles. Ça voulait dire qu'on accordait de la valeur à ces idoles, qu'on avait une marque d'attachement par rapport à ces images. C'est une pratique qui est d'ailleurs décrite dans la Bible et notamment chez le prophète Osée. C'est dans le chapitre 13, au verset 2. Et là, il fait une allusion à un culte, le culte du dieu Baal, dont il est souvent question dans l'Ancien Testament. Et le prophète reproche aux gens de son pays, du royaume d'Israël, de se détourner du vrai Dieu pour se tourner vers Baal. Et il dit, et maintenant, ils continuent à pécher, ils se font des images de métal fondu avec leur argent, des idoles de leur invention, des choses qu'ils imaginent. Œuvre d'artisans que tout cela. Ils disent, offrez-leur des sacrifices à des veaux, des hommes donnent des baisers. Souvent, le dieu Baal était représenté assis sur un veau ou sur un taureau, parce que ça représentait la force, c'était un symbole de force, un symbole de fertilité aussi. Et il y a cette idée, en fait, qui guide l'adoration, c'est « j'ai besoin de force, alors je vais t'honorer, je vais t'adorer pour que tu me donnes la force dont j'ai besoin ». Donc, j'établis un contact en embrassant, en portant sa main, des lèvres sur la représentation, sur le veau en l'occurrence. La logique, c'est « j'adore ce qui va me permettre de répondre à mes besoins. J'ai besoin de force, j'ai besoin de puissance, j'adore ce qui représente la force et la puissance. » Vous voyez ? Vous comprenez la logique ? Et ça parle du mécanisme qui nous anime tous, les uns et les autres. On définit sa valeur personnelle en fonction de ce à quoi on accorde de la valeur. Ce à quoi nous accordons de la valeur, quand nous l'obtenons, nous apporte alors un sentiment de sécurité et de reconnaissance. C'est ce qui nous permet de nous affirmer et d'être acceptés par les autres. Or, notre valeur, notre sécurité, notre sentiment d'appartenance ou notre sentiment de reconnaissance, nous le trouvons en Dieu. Et nous ne le trouvons parfaitement qu'en Dieu. Et là, je vous renvoie au tout premier message de cette série, où Laurent nous a expliqué ça, où à partir du moment où la relation avec Dieu est coupée, toutes ces choses-là, nous allons, si nous ne les trouvons pas en Dieu, nous allons les rechercher ailleurs. Si ce qui a le plus de valeur pour moi est l'argent, j'établirai ma propre valeur en gagnant de l'argent ou en économisant à outrance. L'argent me donnera le sentiment de sécurité, de reconnaissance dont j'ai besoin. Si ce qui a le plus de valeur pour moi est la beauté, j'établirai ma propre valeur en soignant mon apparence. Et la beauté me donnera alors le sentiment de sécurité et de reconnaissance dont j'ai besoin. Si ce qui a le plus de valeur pour moi est le pouvoir, j'établirai ma propre valeur en exerçant le pouvoir, en exerçant des responsabilités. Et le pouvoir me donnera le sentiment de sécurité et de reconnaissance dont j'aurai besoin. Si ce qui a le plus de valeur pour moi est le travail, j'établirai ma propre valeur en étant performant sur le plan professionnel. Et le travail me donnera ce sentiment de sécurité et de reconnaissance dont j'ai besoin. Si ce qui a le plus de valeur pour moi est la famille, j'établirai ma propre valeur en devenant le meilleur époux, la meilleure épouse, le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur fils, la meilleure fille, que sais-je. Et la famille me donnera alors le sentiment de sécurité et de reconnaissance dont j'ai besoin. Si la valeur, c'est dans le fait d'être aimé, d'être populaire, si c'est ça là qui a le plus de valeur pour moi, j'établirai ma propre valeur en devenant la personne la plus appréciée. Et je ferai en sorte d'être la personne la plus appréciée de mon entourage. Et alors, la popularité me donnera le sentiment de sécurité et de reconnaissance dont j'aurai besoin. Et alors, je pourrais faire la liste de tout. Ça marche pratiquement avec tout. Ça marche avec le sport, ça marche avec la musique, ça marche avec les collections, les collectionneurs qui sont passionnés et qui ne sortent pas de leur collection, ça marche avec la politique, l'exercice du pouvoir, ça marche avec la maison, ça marche avec le bricolage, le jardinage, la sexualité, ça marche avec le ministère. Tout ça, on peut le trouver dans ce type d'activité. Et ce qui est terrible, et ça, je crois que c'est quelque chose auquel il faut vraiment être attentif, c'est que toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. C'est pas condamnable d'être un bon gestionnaire, c'est pas condamnable d'être sérieux dans son travail. C'est pas condamnable de s'investir pour être un bon père, une bonne mère et assurer le bonheur de sa famille. Mais tout cet investissement est accompli pour se réaliser soi et trouver cette sécurité, trouver cette reconnaissance dont on a fondamentalement besoin. Et dans la Bible, souvent, les idoles, elles sont appelées, elles sont désignées comme étant des ouvrages qui sont faits de main d'homme. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est une formule qu'on trouve régulièrement dans les textes bibliques. C'est des ouvrages faits de main d'homme. Et souvent, vous avez vu, les idoles, elles sont représentées comme des hommes ou comme des femmes, avec des attributs qui manifestent leur puissance. Ce qui fait qu'en faisant une belle statue, l'homme admire son travail, mais il s'admire lui-même. Parce que, et c'est ça l'idolâtrie, c'est chercher à s'accomplir soi-même, c'est chercher sa propre valeur en s'accomplissant ou en recherchant cette valorisation dans le regard des autres. Alors la question pour identifier nos idoles, c'est qu'est-ce qui, en dehors de Dieu, me fournit une raison de vivre et un sentiment profond de sécurité et de reconnaissance? C'est une question qui est important de se poser. Je le crois même en tant que chrétien. Qu'est-ce qui, en dehors de Dieu, me fournit une raison de vivre et un sentiment profond de sécurité et de reconnaissance? Notre identité est forgée par ce dans quoi nous investissons notre énergie. Elle est forgée par ce qui nous fait dans ce qui nous fait avancer dans la vie, dans ce qui donne un sens à notre vie. Mais tout ça ne fait que remplacer Dieu qui seul peut pleinement satisfaire ce besoin de sécurité et de reconnaissance. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 44, au verset 8 et 9, Dieu parle au travers du prophète et il dit « À part moi, y a-t-il un autre Dieu ?» Nous savons que non. Non, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais aucun. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres, ceux dans quoi ils s'investissent, ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, et cela entraîne la déception. L'adorateur d'idoles croit que cette idole va répondre à ses besoins. Mais en réalité, elle ne peut rien pour lui. Elle ne comblera pas ce vide infini que seul Dieu qui est infini peut combler. Elle est vide et elle laisse vide celui qui l'adore. C'est ce que dit le prophète là. C'est ce que dit Dieu au travers du prophète. Il n'y a que Dieu qui peut pleinement répondre à ce besoin qui est un besoin existentiel. Et comme toutes ces activités que je viens de décrire, du moins quelques exemples, donnent un sens à notre vie, lorsque nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs, tout s'écroule. Le mariage qui bat de l'aile, les échecs dans les études, alors qu'on se projetait, on pensait qu'on allait s'accomplir dans ces études, dans telle profession. Voilà, puis c'est la déconvenue, même au niveau professionnel, on pensait qu'on allait progresser, on pensait qu'on allait s'épanouir, et puis c'est pas ce qui arrive. Les pertes financières imprévues, alors qu'on avait investi, on avait assuré sa sécurité comme ça. Et quand ça s'écroule, quand le fruit de notre énergie disparaît ou s'affaiblit, mais tout ça, ça laisse un goût amer. Une profonde déception, comme il est dit dans le prophète, là, un sentiment de vide. Et ça correspond à ce que l'on trouve un peu plus loin dans le même prophète, quelques versets plus loin, parce que au chapitre 44, Ésaïe décrit un homme qui va récolter du bois. Il va prendre une partie du bois pour faire un feu et cuire sa viande, et puis l'autre partie du bois, il va faire une statue. Il dit, voilà, il y a une partie du bois qui va brûler, puis une partie du bois, et tu vas t'adresser à la statue et lui demander de te sauver. Alors c'est très ironique, bien entendu, et au verset 20, il dit... Il est attaché à de la cendre, son cœur abusé l'a égaré parce qu'il a construit cette idole avec son bois. Il ne sauvera pas sa vie, il ne dira pas ce que j'ai dans la main, n'est-ce pas un mensonge? Parce qu'il est aveuglé, il ne réalise pas en fait que cette idole faite en bois ne pourra rien pour lui. Et il y a un moment où il faut peut-être se dire, mais est-ce que je me trompe pas? Est-ce que mon énergie, est-ce que là tout ce qui donne un vrai sens à ma vie, est-ce que mon énergie je la mets pas à côté? Est-ce que je suis pas en train de taper à côté? Et est-ce que ce pourquoi je donne ma vie, finalement, ne me comblera pas? Est-ce que c'est pas quelque chose qui me trompe? Il y a une petite histoire pour illustrer cela, l'histoire de Toyotomi Hideyoshi. Je ne sais pas si vous allez retenir son nom. Toyotomi Hideyoshi, c'était un chef de guerre japonais qui a régné sur une partie du Japon à la fin du XVIe siècle. Et cet homme-là, c'était un vaillant chef de guerre. Il avait conquis plusieurs territoires de manière victorieuse au Japon et en dehors du Japon. Et à un moment donné, il a dit, je vais donner du faste à mon pouvoir. Là, les gens vont voir que je suis fort, que je suis un conquérant. Et il a commandé une statue énorme, une statue colossale de Bouddha pour l'installer dans un temple dans la ville de Kyoto, un temple qui s'appelle le Hokoji. Et pour construire ce temple, il a mobilisé l'énergie de 50 000 hommes. 50 000 hommes qui ont travaillé pendant 8 ans, entre 1588 et 1596, pour ceux qui aiment les détails et l'histoire. 8 ans d'énergie, d'efforts intenses pour élever un temple immense avec une statue immense. Et les travaux du temple et de la statue étaient à peine terminés, les choses étaient à peine installées, qu'il y a un violent tremblement de terre qui a secoué Kyoto. Et le toit du sanctuaire s'est écroulé sur la statue. La statue s'est trouvée brisée en plusieurs morceaux. Et là, Hideyoshi, il s'est mis en colère. Il a même pris son arc, une flèche, il a tiré sur ce qui restait de la statue. Puis il a dit, mais c'est pas possible. Là, je t'ai installé ici à grands frais, j'ai fait des dépenses et t'as même pas pu t'occuper de ton propre temple. La déception quand tout s'écroule. J'investis. Je crois que je vais me réaliser. Je crois que je vais montrer aux autres que je suis brillant, que je suis fort. Voilà. Et tout s'écroule parce que c'est vain, parce que ça ne peut pas répondre pleinement à nos besoins. Et c'est ce genre de sentiment de vanité que nous pouvons éprouver quand nous réalisons que ce que nous investissons dans nos idoles, dans ce que l'on pense qui va nous apporter la paix, la sécurité, la joie, la reconnaissance, ça n'a pas le résultat attendu. Lors de la crise économique qui a éclaté il y a 10 ans maintenant, en 2008, il y a plusieurs dirigeants d'entreprises qui étaient riches à millions, qui agissaient dans la haute finance, qui ont mis fin à leur jour. Ils se sont suicidés parce que ce en quoi ils avaient investi pendant des années et des années, alors qu'ils étaient brillants, alors qu'ils étaient reconnus, boum, tout s'écroulait à cause de la crise économique. Et je me souviens d'un reportage qui disait que les traders, tous les courtiers qui travaillent là dans à la bourse et qui font valoir les actions, les traders se sont mis, les cabinets de psychologues étaient remplis de traders à partir de 2008-2009. Parce qu'avant, ils étaient considérés comme des gens brillants, ils étaient admirés parce qu'ils gagnaient de l'argent, facilement, c'est un investissement, mais ouais, et là, on les rendait même responsables de la crise économique. Ce qu'ils comblaient, finalement, ça laissait un vide. C'est quand la dépression arrive, vous savez, les gens qui ont été actifs toute leur vie, et puis voilà c'est le moment de la retraite, le moment de la retraite a sonné, bam, c'est la dépression. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça aussi. Eh oui, mais en quoi l'énergie, elle était mise? Qu'est-ce qui définissait l'identité de ces personnes? Et la solution pour pouvoir échapper à ça, c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, c'est de devenir à l'image de Christ. La seule image dans la Bible sur laquelle nous sommes appelés à porter notre attention, c'est l'image de Christ. Alors pourquoi cette exception? Parce que la Bible nous dit que Christ est l'image de Dieu et qu'au travers Christ, nous atteignons Dieu. Le discours de la plupart des religions, c'est obéissez à Dieu. Les religions demandent d'obéir à Dieu. La foi chrétienne demande de ressembler à Dieu. Alors, l'objectif peut être un peu intimidant, ressembler à Dieu. Enfin, je ne sais pas comment vous recevez ça. Tu dois ressembler à Dieu. Moi, ça me paraît inatteignable, impossible. Mais heureusement, Dieu nous aide par son esprit à former et à développer l'image de Christ en nous. Et c'est ce que dit la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3. On va lire les versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où souffle l'Esprit de Dieu, nous sommes libérés. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Une transformation qui se fait en nous par le Saint-Esprit à l'image de Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans ce face-à-face spirituel que je peux avoir avec Dieu, qui est rendu possible par Christ, l'adoration se concentre sur ce que Dieu est. Et lorsque je me concentre sur ce que Dieu est, lorsque je me laisse toucher par sa parole et que je contemple Dieu dans ces moments d'adoration, eh bien là, je réalise toujours mieux la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la patience de Dieu, la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu, la bonté de Dieu. Tout ça, là, ça œuvre en moi, la parole œuvre en moi. Et le Saint-Esprit agit et nous transforme intérieurement. Et ça se passe dans ce face-à-face spirituel. Le Saint-Esprit nous modèle progressivement à l'image du Seigneur. Et il opère en nous cette transformation qui est progressive, comme le dit l'apôtre Paul, grâce à la foi que nous avons dans la parole et dans l'action du Saint-Esprit. C'est cette démarche de foi qui assurera cette transformation. Possible grâce à cette proximité, grâce à cette relation avec Dieu que Jésus a rétablie. Et le résultat, c'est la liberté. Là où le Saint-Esprit agit, je suis libre. Je suis libre de ce qui me définit en dehors de Dieu. Je suis libre là de la pression qui est exercée par moi, sur moi, que ce soit le travail, que ce soit la beauté, que ce soit toutes ces choses que nous avons évoquées. Je suis libre de cela parce que je me réalise pleinement au travers de ma relation avec Dieu. Plus nous contemplons quelqu'un que nous aimons et plus nous lui ressemblons. Vous avez vu Johnny Hallyday ? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, l'idole des terrains de football, c'était Cantona, Eric Cantona. Et quand il jouait, il relevait son col. Pour les plus anciens, vous savez peut-être de ça. Et ben, sur les terrains de football, tous les gamins, quand ils jouaient au football, ils relevaient le col. Et oui, plus nous contemplons quelqu'un que nous aimons, et plus nous lui ressemblons. Plus nous passons du temps avec quelqu'un que nous aimons, et plus nous sommes soumis à son influence. Et le résultat de cette proximité, c'est que nous lui ressemblons de plus en plus. Il y a une image de cette personne que nous aimons qui se forme en nous. Et ça fonctionne comme ça sur le plan spirituel. Et ça, cette transformation, elle rend inutile les faux dieux que nous forgeons à notre image. Je voudrais rapidement vous raconter l'histoire de Nicolas. Nicolas, c'est un gars qui s'est approché du Seigneur, il avait une trentaine d'années, et il avait vraiment connu plusieurs déconvenues. Quelqu'un qui recherchait l'amour, vraiment. Et donc, il l'a cherché dans les femmes, dans un premier temps, il s'est même marié, et au bout de 6 mois de mariage, il s'est séparé. C'est quelqu'un qui a cherché aussi la reconnaissance et l'amour dans son milieu professionnel. Il était devenu policier et il avait intégré un club de motards policiers. Et donc, il pensait là qu'il avait trouvé dans les relations avec ses pairs l'amour et la reconnaissance dont il avait besoin. Et puis, quelques années se sont passées et ce club de motards policiers, il s'est effondré parce que les gens à l'intérieur du club ne s'entendaient pas. Donc, vraiment beaucoup de déconvenues, beaucoup de déceptions parce que toutes ces choses dans lesquelles il s'était investi, c'était du vent, de la vanité, ça n'avait pas répondu à ses besoins. Et il a été raccroché à quelqu'un qui lui a témoigné de Jésus, et il est venu à la foi, et il s'est engagé, il a pris le baptême, quelqu'un de zélé pour Jésus, et ce qui l'a raccroché, c'est qu'il est passé par l'intermédiaire d'un club de motards chrétiens. Ça existe. Et il avait, et d'ailleurs il en est devenu le responsable quelques années après, parce qu'il avait un tel amour, une telle joie de partager Jésus, il le fait vraiment très facilement avec tout son cœur, et il a trouvé, en venant à l'église, il a aussi trouvé une épouse, quelqu'un qui était très engagé, et avec qui il s'est marié, avec une chrétienne, et c'est vraiment un couple engagé auprès des ados dans leur église, enfin bon. Et au travers de ce club de motards, il touche des populations que ni vous ni moi ne pourrait toucher, parce que c'est un monde quand même très particulier, très fermé, avec des codes dont il faut être très respectueux. Il a pu parler à des personnes qui étaient dans la drogue, dans la prostitution, des gens armés. Enfin bon, c'est... Et au début du mois de juillet, notre Nicolas, alors qu'il est devenu papa, il y a eu un petit garçon qui est né prématuré avec des problèmes de santé. Donc l'enfant est resté à l'hôpital. Et il est devenu CRS. Alors c'est vrai que c'est pas un métier pour chercher l'amour, c'est pas forcément le métier idéal. Mais justement, quand il est venu à Jésus puis qu'il s'est senti aimé par Jésus, il a dit moi je bon ok même si je suis CRS là je peux être aimé en fait. Ça s'est passé par là aussi. Et puis il rentrait de sa compagnie, il était sur la route et à un moment donné il rentrait en moto forcément. Et quand il a pris un rond-point, il y a une voiture qui lui a coupé la priorité et qui l'a renversé. Le choc a été très violent et il a été touché au niveau des deux jambes. À tel point que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, dans un état très critique, les docteurs ont dit on va être obligé de l'amputer, les deux jambes. Alors l'Église a prié, l'Église s'est mobilisée, le club de motards chrétiens s'est mobilisé dans la prière, et il y a une jambe qui a pu être sauvée, mais la jambe gauche, c'était vraiment beaucoup plus délicat, il souffrait énormément. Et jusqu'au moment où la nouvelle est tombée, on ne va pas pouvoir éviter l'amputation. Et donc, Il s'est fait amputer à mi-mollet. Et ça a été une totale remise en question. Totale remise en question. Plus de la moto terminée. Le club de moto terminé. Le métier terminé. On ne peut pas être CRS avec une jambe en moins. Enfin, pas une jambe, mais moitié de jambe en moins. Donc, qu'est-ce qui allait se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui allait se passer à ce moment-là? Elle était où, l'identité de notre Nicolas? Et ben heureusement, son identité, elle n'était pas dans ces choses-là, elle était dans Christ. Et aujourd'hui, quand j'entends Nicolas parler, mais je vois quelqu'un qui est encore plus motivé, encore plus vaillant, encore plus rempli d'amour, parce que cet amour qu'il a trouvé et qu'il l'a touché, il le manifeste. Nicolas, c'est quelqu'un qui aime aimer. Vraiment, c'est ça. C'est ce qui le caractérise. Quand il nous voit à chaque fois, il nous prend dans ses bras et tout, et il prend des gens qui sont dans la drogue comme ça, et il est rempli d'amour. Et son langage, là, maintenant, c'est de dire, parce qu'il va y avoir un procès, et la personne qui l'a renversé, mais elle est dévastée. Elle porte cette responsabilité. Elle dit, mais j'attends le jour du procès pour lui dire que je lui pardonne, que je l'aime, que je tiens absolument pas rigueur de ce qui s'est passé. Et comme il est très câlin, il a même envie de... Je ne sais pas si ce sera la meilleure chose à faire. Mais parce que son identité est en Christ, ça ne changera rien. Et la bonne nouvelle qu'il a eue, c'est que alors que normalement son articulation devait être bloquée, en fait, là, il a récupéré à 100%, ce qui fait qu'il va pouvoir avoir une prothèse adaptée qui va lui permettre de remonter sur une moto. Donc, il va pouvoir continuer son ministère. Et on lui a dit aussi que au niveau des CRS, il resterait dans sa compagnie en tant que formateur. Donc voilà, cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Allez, on va se recueillir parce que là, face à cette parole, il faut quand même qu'on puisse prendre les choses au sérieux et que le Seigneur nous parle. Peut-être on peut en prendre... le pianiste ou un guitariste qui puisse nous accompagner dans ce moment-là. C'est comme un appel, finalement, mais je voudrais qu'on entende les uns et les autres la voix de Dieu et sans doute là tendre l'oreille pour voir ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça. Nous sommes chrétiens, nous sommes les adorateurs du vrai Dieu et nous voulons le rester, nous voulons développer notre relation. Dieu est venu, il nous a donné Jésus pour que ce soit possible. Mais on va se pencher, on va réfléchir. Et on va répondre à cette question, c'est quelle est notre raison d'être? Sincèrement, honnêtement, lorsque nous nous réunissons dimanche après dimanche, le but c'est que l'image de Christ se forme en nous. Le but c'est que nous soyons toujours plus de véritables adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça le but. Très sincèrement, frères et sœurs, si nous ne faisons pas ça, nous adorerons quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est notre mécanique humaine. Alors, quelle est ta raison d'être? Quelle est ma raison d'être? Ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse nous éclairer par rapport à cela et que nous ayons l'honnêteté de répondre à la question. Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qui consomme ton énergie? Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Sur quoi repose ton besoin de sécurité et de reconnaissance? Qu'est-ce qui fait que j'ai le sentiment d'exister? Dans ce que j'accomplis, dans ce que je fais, là où j'investis mon énergie. Qu'est-ce qui fonde ta valeur? Qu'est-ce que tu penses que si tu le fais, tu vas être aimé, tu vas être apprécié, tu vas te sentir en sécurité? Qu'est-ce qui fonde ta valeur? On peut poser la question autrement, puisque nous ressemblons à ce que nous adorons. La question c'est qu'est-ce qui agit le plus sur ton caractère? Qu'est-ce qui influence le plus ton caractère et ton comportement? Qu'est-ce qui, sur cette terre, si on te le retirait, ferait écrouler toute ta vie? En d'autres termes, pour résumer, qu'est-ce qui te sauve à la place de Jésus? J'aurais simplement qu'on ait ce moment d'honnêteté par rapport à Dieu. C'est entre lui et nous, entre toi et lui, entre moi et lui. Ouais, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, que par ton esprit, tu viennes et tu nous parles et que tu nous éclaires. Parce que cette question-là, c'est très facile de nous aveugler. C'est très facile de nous justifier. Et nous sommes obligés de confesser notre faiblesse par rapport à cela. Parce que ça tient à ce sentiment de réalisation personnelle, d'accomplissement personnel. Il y a des choses bonnes dans lesquelles nous nous investissons. Mais nous ne voulons pas que ça devienne notre idole. Nous ne voulons être que l'adorateur de toi, l'adorateur du seul vrai Dieu. Alors Seigneur, s'il te plaît, viens ce matin. Viens nous éclairer, viens nous conduire là où nous avons besoin d'être conduits. Viens nous aider à tourner notre regard vers toi. Aide-nous à faire face à ce qui est si important dans notre vie et qui nous détourne de toi. Mets-nous face à ces choses dans lesquelles nous recherchons notre accomplissement. Nous recherchons notre satisfaction suprême. Alors que c'est toi seul qui peux répondre à ces besoins. Tu as mis dans chacun de nous des talents et des compétences, mais Seigneur, que cela ne devienne pas notre idole. Tu nous as donné une famille, mais que cela ne devienne pas une idole. Tu as pourvu à nos besoins en nous donnant un travail, mais que cela ne devienne pas notre idole, Seigneur. Tu nous béniras dans toutes ces choses, j'en suis convaincu, dans ta fidélité, dans ton amour. Mais Seigneur, c'est d'abord répondre à ce commandement de regarder à toi, de t'adorer, toi, de toujours mieux te connaître pour que tu nous influences et que tu formes en nous par ton esprit l'image de Christ. C'est ça notre but suprême. Et toutes les autres choses viennent par-dessus. C'est ta promesse. Oui, Seigneur, merci pour ta lumière ce matin. Oui, merci, Seigneur. Merci pour le travail que tu accomplis dans nos cœurs. Si tu n'étais pas là et si tu n'agissais pas, tout cela serait vain. Cette parole proclamée serait vaine. Mais nous croyons, Seigneur, que tu agis par ton esprit. Nous croyons que ta parole est vraie et qu'elle va s'accomplir dans nos vies. Nous avons chanté tout à l'heure que nous t'invitons dans la maison, comme l'avait fait Zachée. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons proclamer. Viens dans la maison, viens et prends toute la place. Tu vois, Seigneur Dieu, tout ce qui se révèle, tout ce que peut-être nous avons voulu cacher, tout ce que nous n'avons pas voulu admettre, Seigneur, nous voulons le placer devant toi pour que tu sois le maître de la maison et que nous puissions être ces adorateurs que tu recherches. Nous regardons à toi et je veux proclamer la victoire. Nous l'avons fait dans bien des domaines tout à l'heure et nous le refaisons maintenant sur ce sujet précis. Tu es le maître de la maison, tu es le maître de nos vies. Et nous voulons apprendre chaque jour de notre vie à regarder, à fixer nos regards vers toi, à t'adorer en esprit et en vérité, afin de répondre pleinement ce pour quoi tu nous as créés. Nous nous réjouissons en toi. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que toi, tu te réjouis en nous. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Mais quel bonheur de savoir que toi aussi, tu es heureux dans notre présence. Tu es notre Créateur et nous t'élevons en tant que tel. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Et nous t'acclamons maintenant, Seigneur. Et cette acclamation, c'est la proclamation de la victoire sur nos vies. Alléluia.